Cette édition du podcast GeekBécois est rendue possible grâce à la participation de Future Shop. Dans cet épisode de GeekBécois, le podcast...
Donc maintenant, on a enfin des compétiteurs qui peuvent entrer puis qui peuvent nous offrir des lignes jusqu'à 25 mégabits sur DSL en utilisant l'infrastructure qui est en place.
Le style de jeu MOBA vient premièrement de Dota, qui l'a vraiment, vraiment popularisé.
Sony a besoin d'un nouveau porte-étendard au niveau du mobile pour pouvoir profiter de la petite faiblesse de la Nintendo 3DS en ce moment. Donc la PlayStation Vita, je pense que ça va être le bon move à faire.
Alors bonjour tout le monde et bienvenue à la nouvelle édition du podcast de GeekBécois. Nous sommes dans un podcast mensuel, donc nous sommes avec une bonne partie de l'équipe. J'ai Laurent avec moi.
Bonjour.
Allô à Bruno aussi.
Bonjour.
Jonathan.
Bonsoir.
Bonsoir. Et c'est tout. On est une équipe un petit peu plus réduite, mais on va vous avoir des sujets très intéressants que vous devriez trouver qui ne sont pas piqués des verres. Alors, allons-y tout de suite. On commence. Bonsoir tout le monde et bienvenue. On est bien content de revenir avec vous avec des podcasts mensuels parce qu'on a été arrêté un petit peu plus longtemps que prévu pour le temps des fêtes. Plusieurs raisons à ça, mais en fait, on est bien content d'être de retour. On s'est ennuyé de vous, les auditeurs, et de l'équipe parce qu'on a du fun à le faire aussi, on s'entend. Alors aujourd'hui, on va vous parler de trois sujets. On est une émission un petit peu plus réduite qu'en temps normal, mais on a décidé de vous faire ça un petit peu plus condensé. Mais vous allez avoir des sujets très, très intéressants. On va parler de la CRTC, l'exploration des jeux MOBA et de la PS Vita. On commence ça d'ailleurs tout de suite avec Laurent qui a un beau sujet sur la CRTC à nous parler.
Oui, moi ça va être à propos des changements qui ont finalement été faits suite à la pression de tous les fournisseurs pour la tarification. Command codes verified.
Program is ready. System online. Les actualités techno avec Laurent Chouinard.
Alors Laurent, on parle du CRTC.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe avec ça?
Bon, OK. De un, petit rappel, l'année passée, Bell s'était mis à appliquer des tarifications assez importantes pour les revendeurs indépendants. Et ça a monté assez haut dans la sphère Internet canadienne et même dans les médias. Il y a eu tout un mouvement de protestation, il y a eu les pétitions, tout ça. Parce que effectivement, ce que Bell proposait à l'époque, qui était aussi suivi là, par les autres, Rogers et compagnie, mais surtout disons, l'initiative de Bell, c'était très, très défavorable pour nous, les clients. Parce que ben, le prix qu'ils chargeaient aux indépendants pour la revente était, je dirais, beaucoup plus grand que le coût réel que ça représentait pour eux-mêmes à l'interne, ce qui permettait que eux, Bell, pouvaient offrir un meilleur prix pour des gros volumes d'Internet que ce que les fournisseurs indépendants étaient capables de faire.
Parce que dans le fond, c'était vraiment pas juste dans ce cas-là. Là. Autant pour les petites industries que pour les grosses industries de Bell, là, dans le fond.
Ben, c'est ça, la grande critique que les indépendants disaient, c'était que le prix qui revendent la bande passante, c'est pas en relation avec le coût réel. C'est un coût fictif qu'ils ont inventé, là, qu'ils ont dit « ça vaut tant du gigaoctet, puis c'est tout ». Mais pour eux, ça ne dérange pas parce que ça sort d'une poche puis ça rentre de l'autre. Donc, pour ouais. Bell, ça ne changeait rien. Mais pour les indépendants, ça en devenait presque impossible de rester en affaires. Il y avait le président de Texavie qui disait qu'il était rendu à des marges tellement minces que, suivant les changements, il ne pouvait pas continuer de maintenir le genre de produit qu'il y avait compétitif à
ceux. C'est ça, il ne pouvait pas concurrencer avec les grosses compagnies. Là.
Suite à tout ça... Suite à la pression, le CRTC a pris le dossier à l'automne. Il a rendu récemment sa décision. Je ne suis pas allé voir dans les détails, mais en gros, ils ont permis deux choses principales. C'est que, de un, la tarification selon le volume utilise une mécanique de calcul qui est maintenant plus aussi défavorable qu'avant. Il y a encore des points en litige, là. Il y a encore du chemin à faire, disons, mais c'est pas mal mieux qu'avant, donc ça va donner des meilleurs prix. Et l'autre l'autre point important, c'était qu'avant, Bell, ce qu'ils ont fait pour essayer de ne pas avoir trop de compétiteurs, Ils avaient séparé leur business un peu en deux au niveau technologique pour la ligne Internet sur des câbles DSL, là, des câbles de téléphone. Mm-hmm. Il y avait l'Internet haute vitesse qui allait jusqu'à des maximums d'environ 7-8 mégabits. Et le reste, qu'ils appelaient le FIB, qui était juste passé par d'autres réseaux, mais qu'à la dernière minute, ça finit par revenir sur une ligne DSL pareil, mais un petit contournement technologique qui leur permettait d'offrir des vitesses allant jusqu'à 25 mégabits, mais qui n'était pas dans l'entente du CRTC, du partage de l'infrastructure pour la compétition. Ce qui fait que personne d'autre pouvait offrir des lignes de 25 mégabits sur DSL. Le CRTC, au début de l'été, a autorisé la compétition sur ces services-là. Donc maintenant, on a enfin des compétiteurs qui peuvent entrer et qui peuvent nous offrir des lignes jusqu'à 25 mégabits sur DSL en utilisant l'infrastructure qui est en place.
Ça, c'est avec. Là.
Ben oui, parce que là, on a enfin. Moi, pendant des années, chez nous, j'avais Texavie DSL, puis le plus que j'avais, c'était 7. Puis 7, c'est ton gros maximum, puis il n'y avait rien à faire pour avoir plus que ça. Il aurait fallu que je switch à Bell, puis là, Bell, c'était presque le double prix, du prix. Ouais, donc, ça ne marchait pas pour moi. Là. Puis la bande passante aussi, ça a toujours été ça, le gros nerf de la guerre pour les geeks comme nous qui consomment beaucoup, parce que quelque part, on est en avance un peu sur les technologies. On consomme déjà plus vite ce qui s'en vient pour la masse après. Ben, le petit 30 ou 40 gigaoctets par mois, là, c'est impossible.
Non, on mange
ça,
nous autres, c'est pas long. Là.
C'est ridicule. si on regarde les décisions qui ont été prises par le CRTC dans les derniers temps, moi, par exemple, le CRTC, moi, je trouve que en tant que geek, en tant que personne qui consomme énormément d'Internet et qui a un bill d'Internet d'au moins 90 $, et ça, c'est pas parce que je passe à travers ma limite, c'est parce que je paye un service qui vaut 90 $. Je trouve qu'on est très, très mal servi et je trouve que le CRTC a... Je trouve qu'il est mou. C'est carrément un oligopole, ce qu'on a en ce moment. C'est juste que Vidéotron fait un peu à sa tête, contrairement aux autres, parce que lui, il a un pied au Québec, mais si on regarde ailleurs au Canada, c'est carrément un oligopole. Là. On se cachera pas que les compagnies de Rogers, TELUS et Bell, ça se parle, puis ça essaie de garder la compétition dehors. Puis à la minute qu'il y a quelqu'un qui fait un move défavorable, ils vont pleurer au CRTC.
Ouais, c'est ça.
Je trouve ça un peu déplorable.
C'est vrai. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que l'impact de ces décisions-là disons, trois changements importants au niveau des forfaits Internet que les indépendants sont maintenant capables d'offrir. Ça entre en vigueur le 1er février, donc c'est très, très, très récent. Oui, c'est ça, on est déjà dedans. Les fournisseurs commencent à offrir les nouveaux produits. Moi, j'ai commandé ma nouvelle connexion Internet le lendemain des changements par coïncidence. Je suis tombé pile dedans, puis je peux enfin profiter du nouveau forfait. Mais la plupart des fournisseurs n'ont pas tous affiché qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, parce qu'il faut que de leur côté, ils calculent évidemment leur seuil de rentabilité, tout ça. Mais donc, trois points importants qui changent. Le premier, c'est que les capacités mensuelles allouées vont maintenant grandir beaucoup pour le même prix. Dans le cas de la plupart des fournisseurs, on se rend facilement à 250 puis 300 gigaoctets de bande passante par mois sans vraiment changer le prix par rapport à ça. En plus de ça, étant donné que la décision sur la tarification a aussi une fonction d'heure de la journée, ils sont tous maintenant capables d'offrir des packages que la nuit, c'est illimité. Donc, moi, je peux prendre un forfait de
la nuit,
Oui. Je peux prendre un forfait, disons, de 200 gigs, 300 gigs, mais la nuit jusqu'à 8 heures le matin, c'est free for all, aucun calcul de bande passante, c'est illimité. Donc,
comment ça peut s'expliquer que durant la journée, j'ai une limite, mais durant le soir, c'est free for all? Pourquoi ça?
La raison, c'est parce que le CRTC, la façon qu'ils ont tranché ça, parce qu'il faut comprendre que la plainte de Bell, c'était que la croissance d'Internet fait que notre réseau atteint sa capacité aux heures de pointe et on est obligé de faire de la limitation. Tu sais, c'était ça le throttling là, qui était la grosse bataille depuis des années que Bell faisait, qui a déclenché tout ça. C'était parce qu'eux autres voulaient limiter la vitesse de tous pendant les pointes. Donc, leur argument au CRTC, c'est on n'a pas de capacité pour les pointes. Il faut avoir un programme de facturation qui est juste en fonction de ça. Donc, le CRTC a dit « fine, ça fonctionne pour ça ». Ça veut dire que quand ce n'est pas une pointe, ben, le prix ne peut pas être le même parce que la capacité n'est pas rencontrée. Ce qui fait que les fournisseurs indépendants peuvent acheter des blocs la nuit qui sont beaucoup moins chers que le jour et offrir du illimité parce qu'ils ne sont pas dans une période de pointe.
Mais bref, moi, ma question est peut-être... moi, j'ai une question peut-être non, mais est-ce qu'on va sentir vraiment une drop de vitesse? À ce moment-là, le soir, si tout le monde se met à être free-for-all le soir, est-ce que ça peut faire comme une chute ou pas du tout, non?
Non.
C'est selon les personnes qu'on dirait qui sont au courant de comment ça marche dans la business, c'était une fausse plainte de Bell que la capacité était atteinte. Parce qu'en réalité, de la capacité, ça s'ajoute. C'est juste la volonté de le faire qui n'était pas nécessairement là. Si maintenant, la règle du CRTC ne leur permet plus de faire de la limitation parce que le CRTC a jugé que c'était anticompétitif, d'ailleurs, Rogers aussi a dû arrêter de le faire en Ontario, ben à ce moment-là, ils n'auront pas le choix d'ajouter de la capacité quand le réseau est rentré, il arrive à saturation pendant une période de pointe. Mais en échange, ils vont pouvoir avoir de l'argent de la part de tous ceux qui achètent la bande passante pendant la période de pointe. Donc, ça devrait être fair pour eux aussi.
Ah, ben c'est bon ça. Est-ce qu'il y avait un autre point aussi que tu voulais apporter?
Oui, il y en avait deux autres. Je vais les couvrir vite fait. Dans le fond, la DSL... Les basses vitesses vont augmenter de prix pour les indépendants parce que dans les packages d'achat de bandes passantes que ça tombe, ça leur coûte plus cher qu'avant. C'est d'ailleurs un des points que Texavi va continuer de batailler, de se battre, c'est-à-dire au CRTC, parce que c'est défavorable pour eux. Donc, les lignes DSL standard pour bien du monde vont augmenter de 2 à 3 $ par mois. Mais à l'inverse, les connexions câbles de haute capacité baissent de beaucoup. Pour vous donner une idée, pour vous mettre en situation, le petit fournisseur Electronic Box, qui est mon nouveau fournisseur Internet, offre des packages du genre 15 mégabits de câble avec 250 gigaoctets par mois pour 45 $. C'est assez dur à battre.
My God.
Oui, yes. Indeed. On peut même aller jusqu'à du 60 mégabits et 250 gigaoctets par mois pour 55 à peine.
Il n'y a pas une grosse différence entre les deux quand même?
Si on regarde les TGV de Vidéotron puis les connexions très haute vitesse de Bell, on est loin de ces prix-là.
Ben oui, nous autres, on est avec Bell puis on a 100 gigs en tout par mois. Puis ça nous coûte pas mal plus cher que ça. Là.
J'espère que quand on va diffuser le podcast, le lien va être là pour des gens comme moi qui risquent d'aller voir le lien et être très intéressés de sauver environ 50$ par mois.
Ben oui,
d'ailleurs, dans le billet quand on va mettre le podcast en ligne, je vais mettre une couple de comparaisons de prix pour qu'on puisse vraiment voir le avant et le après, mais aussi ce que les alternatives sont capables d'offrir maintenant avec les nouveaux programmes tarifaires-là. C'est quand même très intéressant. Disons qu'enfin, Internet au Canada, je pense qu'on peut dire qu'il y a une petite amélioration qui est faite là, par rapport aux pays d'Europe qui ont pratiquement ça gratuit. Là. On était dans les plus chers, ben je pense que là, on refait un petit peu de chemin.
Ouais, mais en même temps, je veux juste rappeler le fait de pourquoi il y a ce litige-là. C'est parce que les indépendants sont obligés d'utiliser les lignes offertes par les gros. Et à cause de certaines réglementations, on ne peut pas réinstaller d'autres lignes pour dire « Hey, moi, j'installe mon réseau. Utiliser mon réseau. »
Il y a une exception à ça, c'est les lignes ADSL2. Puis d'ailleurs, le fournisseur à Montréal, Colbanet, qui a commencé à installer des équipements ADSL2 partout dans le centre et l'est de la ville de Montréal, ce qui lui permet d'offrir un Internet qui est à 100% déconnecté de tous les réseaux de Bell, à l'exception du dernier bout de fil. Et ça fait en sorte que les autres ne sont pas couverts par aucune des décisions du CRTC en relative à ces choses-là. Ils peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent, mais ça leur coûte tellement cher que présentement, ils ne sont pas capables d'agrandir.
Alright. Je pense par contre qu'on arrive vraiment avec une bonne solution pour les compagnies indépendantes. Puis c'est là qu'on va voir justement si les grosses compagnies vont essayer de concurrencer justement avec ça ou bien si à ce moment-là, c'est le marché vraiment des compagnies indépendantes qui va prendre le dessus. C'est là qu'on va voir. Je pense que je pense que c'est vraiment intéressant comme nouvelle du CRTC qui nous offre. Et on va tous en profiter et suivez justement les liens qu'on va ajouter sur le post du podcast. Vous allez pouvoir être mieux renseignés. Mais en tout cas, Laurent, tu nous as aidé à nous éclairer un peu plus là-dessus. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer sur un côté un petit peu plus gaming. On va toucher à des jeux. On va faire un petit peu d'exploration sur les jeux MOBA avec Jonathan. Alors, Jonathan, ça va bien?
Oui, ça va très bien.
Tu voulais nous parler de jeux MOBA qui, en fait, moi, je viens d'en apprendre aussi là-dessus. Je pense que tu nous en avais déjà parlé, mais tu vas toucher à un petit peu plus vaste dans le sujet.
Ben, en fait, j'en ai pas encore parlé ici. C'est juste parce que j'ai eu un flash, comme certains d'entre vous vont le savoir. On a été, moi et Bruno, à l'IGDA.
Oui.
Puis, il y a eu beaucoup de jeux impressionnants, sauf qu'il y a quelque chose qui m'a fait un peu grincer les dents. C'est que il y a un des jeux montrés qui disait « Ah, ben tu sais, on s'inspire beaucoup de Team Fortress 2. » D'accord, j'ai pas de problème avec ça. C'est un style tout à fait, tu sais, à lui-même. Il y a pas de problème. Puis, à LOL. Pour ceux qui sont très forts en jeu en ce moment sur le PC, LOL, ça veut dire League of Legends.
Ah, OK.
Ce que les gens n'ont pas l'air à savoir, ou en tout cas ceux qui lui ont dit la chose n'avaient pas l'air à savoir, c'est que LOL, ça vient d'en quelque part d'autre. C'est pas LOL qui a créé le genre MOBA. C'est pas... Tu sais, c'est un des successeurs et non un des créateurs.
Donc, je viens juste d'avoir un flash, je te coupe 30 secondes. Le MOBA où j'en avais entendu parler, c'est dans un épisode de Fun Jouer Jeu, que c'était d'ailleurs Damien, je pense, qui en avait parlé. Et je viens de catcher, oui, le style de jeu. Puis effectivement, c'est ce qu'il disait aussi, que c'était pas League of Legends partout. On continue avec toi, excuse-moi, je viens d'avoir un flash incroyable.
Ah ben, il n'y a pas de problème. C'est, de toute façon, c'est ce que je peux comprendre facilement, parce que League of Legends est un des plus connus. Mais bon, historique très rapide, c'est pas compliqué. Le style de jeu MOBA vient premièrement de Dota, qui l'a vraiment, vraiment popularisé, qui est toujours très populaire à ce jour et qui fait encore des tournois avec des pools de prix de plusieurs millions. Mais tout ça, ça a commencé avec une map de StarCraft. Custom map, oui. C'est la map, ça s'appelle Aeon of Strife, qui était un peu le grand papa, dans le fond, de Dota. Puis après ça, Ice Frog et d'autres personnes se sont mis ensemble puis ils ont créé Dota. Dota, c'était quoi? Dota, c'était un autre custom map, une map créée par les utilisateurs, mais sur Warcraft 3. Donc, on parlait d'un engin qui était un petit peu plus récent, avec des résolutions un peu meilleures. Bon, donc, les gens avaient un petit peu plus de liberté. Donc, ils ont décidé de créer Dota, qui sont les quatre lettres de Defense of the Ancients.
OK.
Donc, avec ça, c'est pas compliqué. Moi, je réfère toujours à ce genre de jeu-là comme une grosse partie d'échecs, parce que tu as des pièces différentes, tu choisis un peu lesquelles tu prends, contrairement au jeu d'échecs, mais ils ont chacun leur pouvoir, chacun leur particularité, puis le but, dans le fond, c'est de tuer l'autre. Mais la map est symétrique, donc la carte est symétrique. Les deux ont les mêmes avantages, des avantages d'un côté ou de l'autre. Puis,
placé à différentes places ou exactement à même place?
C'est inversé. Donc, exemple, l'équipe qui est en bas va avoir une ligne, dans le fond, d'armée qui va être plus longue en bas. Donc, okay, ça peut être une place un petit peu plus sauve pour les gens qui sont en bas. Les gens d'en haut vont l'avoir en haut. Okay. Donc, c'est un petit peu inversé. Donc, ça donne des dynamiques différentes. C'est pas, mettons, deux lignes safe, une contre l'autre. Là. C'est toujours
égal, ouais, c'est ça.
C'est ça. Donc,
dans le fond, c'est un board d'échecs bien ordinaire.
C'est ça, tu sais, dans le fond. Donc, bref, c'est ça. Donc, l'idée en arrière de ça, c'est une armée contre l'autre. Ils ont chacun des tours de sécurité pour préserver la base. Une fois que ces tours-là sont brisés, on peut aller briser la base de l'ennemi. Donc, après ça, on intégrait la dynamique des héros qui a été introduite avec Warcraft 3, entre autres, ben, officiellement par Blizzard. Donc, ils ont exploité ce système-là. Ils ont créé des héros qui étaient très différents. Donc, tu avais des mages, tu avais des gens qui se battaient en mêlée avec des grosses épées, des choses comme ça. Tu avais des gens qui utilisaient l'arc, des choses comme ça. Donc, inclus avec ça venait l'utilisation des habiletés, blablabla. Donc, chacun était vraiment différent. On parlait d'un choix d'environ facilement 45 à 60 héros.
Quand même.
Ça en fait beaucoup des pièces d'échecs, là.
Mm-hmm.
Donc, oui. Après ça, étant donné qu'il n'y avait pas vraiment de jeu sorti par Blizzard, il n'y a pas eu d'upgrade officiel encore de cette map-là dans un autre jeu. Mais elle s'en vient. Ça, je vais en reparler un peu plus tard.
OK.
Donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont bien aimé l'idée, qui se sont dit « Bon, c'est une bonne idée, on va bâtir là-dessus, puis on va faire quelque chose. » Donc, est venu par Gas Powered Games, Demigod, en 2009, qui a mangé toute une volée par les critiques. C'était... Le jeu avait un feeling... rushé. Ça a été fait vite fait. Ça a été lancé comme ça sur le marché. On s'est dit, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis même aujourd'hui, je pense que si on tape Demigod, on peut avoir des beaux articles sur Google, des producteurs et tout qui s'excusent encore
de
la qualité qui a été sortie. c'est quelque chose.
Par exemple, on s'excuse!
Mais c'est c'est plate qu'ils font ça, surtout comme un site de jeu comme qui est à découvrir encore, là, malgré même si ça fait quand même longtemps. Là, ils sortent un jeu, puis là, ben ça s'allie un peu le style du jeu à cause de ça.
Ça me fait penser au jeu E.T. pour Atari que j'ai appris cette semaine, l'histoire complète de cette saga-là.
les millions de cartouches qui ont été enfouies, mais que le gouvernement leur a tapé.
Dans le désert, oui.
Oui, c'est ça.
Encore aujourd'hui, il y a des gens qui creusent pour en trouver.
Imagine. Mais tu sais, t'as ça dans ta collection, t'as une belle petite fortune, là, on s'entend.
En effet. Donc,
on continue.
Oui, donc Demigod reprenait l'idée, donnait des héros différents, c'est un petit peu plus slow, c'était une touche un peu particulière, mais bon, c'est ça, à cause des bugs et des choses comme ça, le jeu n'a pas vraiment pogné, entre guillemets, avec la communauté. Donc, les gens se sont excusés, on a passé à autre chose. Après ça, là est sorti League of Legends, qui est sorti lui aussi proche de 2009.
Ça a pogné, on s'entend.
Ça a pogné, pourquoi? Parce que c'était gratuit.
OK.
Son compétiteur, Heroes of New Earth, que moi j'aime beaucoup. Ben, en fait, j'aime beaucoup les deux, mais je joue un petit peu plus à Heroes of New Earth. Ce qui est arrivé au moment du développement, dans le fond, c'est qu'ils ont pris deux chemins différents. Il y a Heroes of New Earth qui s'est dit, nous, on va partir avec la base exacte de Dota. Donc, ils ont pris la map, ils ont essayé de recréer le plus possible ce qu'ils pensaient qui était la map vraiment originale. Donc, les distances sont pareilles, les unités de mesure sont pareilles parce que c'est une unité de mesure qui est particulier à l'éditeur de Warcraft qui avait été utilisé. Les héros, il y a beaucoup de héros qui se retrouvent dans Heroes of New Earth qui étaient dans la map de Warcraft 3 de Dota. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se répètent. La jungle est pareille. Tout est pareil. Sauf que, après ça, eux se sont dit, on va y ajouter notre petite touche. Donc, ils ont commencé à faire des héros. Ils ont commencé à rajouter des costumes que League of Legends avait déjà. Ils ont commencé à ajouter un paquet de petites choses comme ça, à modifier des héros qui étaient déjà créés. Donc, ils ont pris des héros, ils ont regardé le système, ils ont fait, il y a telle habilité qui ne marche pas parce que ça désavantage le joueur en X ou Y paramètres. Donc, on va lui donner une autre habilité.
Okay.
Donc, ça, il y a un petit peu moins pogné parce que le jeu a été fait par S2 Games, qui est habituellement assez bien connu sur Internet. Ils font des très bons jeux. Ils ont fait des jeux free-to-play avant, donc ça coûtait pas une scène jouer à leur jeu. Sauf qu'ils donnaient des packages, exemple, si on regarde avec Savage et Savage 2, qui sont deux de leurs plus gros jeux, ils donnaient des packages, mettons, 30$, on va vous donner des upgrades pour pouvoir, des améliorations pour pouvoir monter de niveau plus vite, avoir plus d'argent en jeu et des choses comme ça. Donc, ils se sont dit, on va faire la même chose avec Heroes of New Earth. Il est en bêta, les gens jouent, ils nous aident, sauf qu'on va lancer l'idée de payer 30$ pour pouvoir continuer le développement, pour voir combien d'argent on se ferait et tout. Donc, ils sont partis avec le 30$, c'était super bien, on payait une fois, on ne payait plus jamais, puis tout le monde était content. Puis finalement, ils se sont rendus compte que devant la fanbase de League of Legends qui est énorme, parce que justement, c'est gratuit.
C'est gratuit, c'est ça.
Ils se sont dit, bon, ben peut-être qu'on manque quelque chose, on devrait peut-être essayer de le mettre en free-to-play nous autres aussi. Donc, en juillet dernier, si je ne me trompe pas, ils ont switché en free-to-play. Donc, n'importe qui maintenant peut se connecter au jeu puis aller jouer une partie. Donc ça, personnellement,
c'est
je trouve que c'est un bon
quand
mot.
Même, hein? Oui, c'est
oui,
ça.
Absolument. Puis, c'est ça. Après ça, il y a eu League of Legends. League of Legends ont pris un chemin différent. Ils ont pris la même base, la même carte de base, mais ils ont changé beaucoup de choses. Ils ont mélangé des héros, des habilités de héros, des choses comme ça. Donc, ça donne un jeu qui a un feeling un peu différent. Ils ont enlevé des mécaniques, ils en ont rajouté. Ils jouent beaucoup avec la balance du jeu encore en ce moment. Mais c'est eux qui sont venus avec le système de microtransactions le plus vite dans le système. Puis, ils se sont fait beaucoup d'argent avec ça. Ils se font encore d'ailleurs beaucoup d'argent avec ça.
Oui, c'est sûr.
Puis d'ailleurs, mon citron va être en lien avec ces deux-là. Mais
curieuse.
Oui, mais oui, ben, en fait, je peux le dire tout de suite. Mon citron, je vais le répéter à la fin du podcast aussi, c'est que le système des microtransactions, c'est génial. Tu payes pas cher pour avoir exactement ce que tu veux. Mais quand un jeu complet, si je pense à Heroes of New Earth, qui m'a coûté 30$, ou League of Legends, que le package de base, quand il se vendait encore un package, là, avec un certain nombre de héros déjà inclus, 20$, quand ils sortent un héros, puis que le héros me coûte entre 7 et 10$, je commence à la trouver salée, la facture. Là.
C'est sûr.
Donc, bon. En tout cas, donc,
on s'estimera, on jasera de ça au orange et citron tantôt.
Absolument. Donc, c'est ça. Puis pour les jeux qui sont à venir sur le même système de MOBA, qui est d'après moi un style qui gagne vraiment à se faire connaître, il y a Super Monday Night Combat, qui est en bêta en ce moment, qui est génial. Ceux qui ont déjà joué à Monday Night Combat, que beaucoup ont nommé le clone de Team Fortress 2. C'est génial, on garde le même style d'humour, on garde le même style d'interface, donc les gens ne seront pas perdus du tout, sauf qu'on y ajoute la petite touche Dota. Donc, on a chacun une base à défendre, on a des lignes à pousser, dans le fond, notre armée à avancer vers la base de l'autre équipe. Ils ont rajouté des personnages, puis eux autres aussi vont marcher avec un système de microtransactions. Il y a Dota 2 que Valve est en train de faire avec un des créateurs original de Dota. Donc ça, c'est une inspiration qui est différente. Ça se rapproche plus de Heroes of New Earth que de League of Legends, sauf que eux, leur mandat, et ça je trouve ça déplorable, mais bon, c'est de faire exactement ce que Dota faisait. Donc un joueur de Dota va embarquer dans Dota 2, il ne sera pas perdu du tout parce que c'est exactement la même chose, c'est juste les graphiques sont améliorés un petit peu. Ensuite, il y a Blizzard qui fait son Dota aussi sur StarCraft 2 avec ses héros originaux de Blizzard au complet. Donc, on va avoir Uther, on va avoir Artus, on va avoir les héros de StarCraft comme Jim Raynor, des choses comme ça. On va avoir Thrall, on va avoir un paquet de personnages qui vont avoir leurs habilités puis qui vont se battre la même chose d'une base contre l'autre puis essayer de ramasser l'ennemi.
Mais dans le fond, ce que je peux voir, c'est qu'il y en a pas mal qui s'en viennent pour 2012 des jeux. Puis j'espère que tu vas avoir la chance de pouvoir justement les tester pour qu'on puisse justement en parler davantage des jeux MOBA qui s'en viennent. Alors, je te remercie beaucoup, Jonathan. C'est super intéressant et c'est le fun de savoir justement l'origine de ces jeux-là. Donc, merci beaucoup. Et on se reparlera de tout ça. Puis on va reparler de ton orange, ton citron tantôt. Inquiète pas.
Absolument.
Ah, ok, merci.
Il est maintenant temps de parler jeux vidéo avec Bruno Pierre-Campo. Restez assis et écoutez attentivement.
Alors Bruno, tu vas nous parler de PS Vita qu'on attend tous impatiemment.
Oui, la PlayStation Vita qui va être la nouvelle console portable qui va remplacer la nouvelle console portable de Sony qui va remplacer la console portable actuelle, mm-hmm. qui est la PlayStation Portable, qui a quand même un grand succès, mais qui va le remplacer par une console de nouvelle génération.
Je pense qu'on est rendu là aussi.
Oui, on est pas mal rendu là. Je veux dire, Sony a besoin d'un nouveau porte-étendard au niveau du mobile pour pouvoir profiter de la petite faiblesse de la Nintendo 3DS en ce moment. Donc, la PlayStation Vita, je pense que ça va être le bon move à faire. La PlayStation Vita sort officiellement le 22 février. Elle va, pour ceux qui ont acheté la First Edition, elle va sortir le 14 février. Donc, il va y avoir une bande de chanceux qui vont l'avoir une semaine avant tout le monde et probablement le donner en cadeau de Saint-Valentin ou...
À moi?
Peut-être. C'est un message à Steve Deguerry.
Oui, c'est ça. C'est bien. Il faut toujours y lancer des messages comme ça.
C'est ça. Donc, oui. C'est une console qui va être très intéressante car il va y avoir deux versions. Une version qui va sortir le 22 et une autre qui va sortir plus tard au Canada. La version qui sort le 22 est la version Wi-Fi seulement. Et il va y avoir une version 3G, mais il n'y a aucun détail avec les distributeurs actuels, Rogers, Bell, TELUS. On n'a aucune idée c'est qui va offrir la PlayStation Vita ou s'ils vont l'offrir tout court. Mm-hmm. Donc, ça reste à surveiller. Il y a aussi une grande liste de jeux qui vient avec la PlayStation Vita. Mais pour simplement revenir sur la PlayStation Vita rapidement, sur le site de Future Shop, il l'annonce à 249,99$ à sa sortie. C'est quand même pas si cher que ça comparé à...
La
version Wi-Fi, comparé à la PlayStation Portable dans le temps qui coûtait 500$. Facile. C'est pas mal moins cher. Mais attention, il y a une attrape. C'est que la PlayStation Vita n'aura pas de disque qu'il faut insérer.
Ouais, c'est ça.
Il n'y aura pas de cassette. Il n'y aura pas rien. Tous les jeux vont être téléchargeables sur Internet, sur le PlayStation Network. Ils ont déjà essayé de faire ça avec le PSP Go. Ça avait échoué lamentablement. C'était un petit peu trop en avance. Et le marché n'était pas prêt. Maintenant que le marché est un petit peu plus préparé à ça, ils vont pousser ça de l'avant avec la PlayStation Vita. Il y a une attrape avec la PlayStation Vita. C'est qu'elle vient seulement avec une carte mémoire de 4 gigaoctets. Et vu que c'est des jeux en haute définition, on peut s'attendre à ce qu'on remplisse la carte avec un ou deux jeux.
Un maximum, là. Les jeux vont être d'une qualité le plus supérieure possible.
C'est ça. Et donc, la grosse attrape de la PlayStation Vita, c'est qu'on va être obligé d'utiliser un format propriétaire qui n'appartient qu'à Sony. On ne pourra pas utiliser des cartes SD déjà établies. Il va falloir acheter de la marchandise Sony pour pouvoir...
Sony, c'est tout le temps ça. À chaque bidule électronique qu'ils ont fait, c'est toujours leur format de carte mémoire, leur format de disquette, leur format de tout.
C'est ça. Je ne tomberai pas dans le débat, mais je trouve ça très, très déplorable. Surtout les prix qu'on voit. Imaginez, 16 gigaoctets. On s'entend, on a des cartes SD de 32 gigaoctets, même de 64 gigaoctets. Pour 16 gigaoctets, c'est 60$. C'est énorme. Pour une 8 gigaoctets, c'est 29,99$. Et pour une 4 gigaoctets, celle qui vient dans votre PS Vita de base, c'est une 4 gigaoctets. Par exemple, il faut faire attention, la First Edition vient avec une 8 gigaoctets. Donc, vous allez avoir peut-être 2-3 jeux de plus.
Ouais, OK.
Mais c'est quand même... Ça peut monter jusqu'à 32 gigaoctets, mais le prix est relativement...
Ah, mais pour avoir la 32, il faut que tu sois prêt à payer...
Ouais, écoute, moi, je me rappelle quand il y avait la PSP, je m'avais acheté une memory stick de... Attention, attelez-vous bien. 2 gigs, je l'avais payé 150$. Et écoute, j'étais le big shot avec ça. Puis l'année d'après, ben, ils ont sorti une memory stick de 32 gigs.
Ah ouais, c'est ça.
Ah, c'est excellent. C'est, je me sens pas pantoute volé.
Ben non, c'est ça.
Bref. Mais par exemple, il y a quand même une belle collection de jeux qui vient avec la PlayStation Vita. La collection de jeux va inclure...
Oui, il y en avait pas mal. Hein? Je suis surprise de la longueur de la liste.
Non, la liste que vous pouvez voir sur notre site, dans l'article des jeux qui parle de toutes les sorties du mois de février. Mm-hmm. Écoute, on a, juste pour en passer quelques-uns, on a Uncharted, la version pour la PlayStation Vita, qui est Uncharted Golden Abyss. Mm-hmm. On a Little Big Planet, version PlayStation Vita, qui pourrait être
très intéressant. Va sortir finalement.
Oui, qui va sortir.
Parce que moi, j'avais entendu... Ben en tout cas, justement, je ne l'avais pas entendu dans la liste des jeux à la sortie du PS Vita. Puis je souhaitais, parce que moi, je te dis, c'est le jeu que j'attends le plus avec le PlayStation Vita. Je suis certaine que c'est le jeu qui va être le mieux fait pour cette console-là. En tout cas, à mon avis. Là.
Naturellement. Il y a aussi Mod Nation Racers, qui est la version de Mario Kart pour...
Ouais.
De Sony, mais qu'on peut bâtir nos propres pistes, c'est quand même intéressant.
La version PS3 était vraiment le fun, fait que j'imagine portable, ça va être écœurant. Là.
Ça va être écœurant. Il va y avoir un vieux classique qui va revenir, Hot Shot Golf Open International, qui va être absolument wow. Là. Ça, je veux dire, c'est Hot Shot Golf, ça va être vraiment intéressant. Donc, c'est vraiment des jeux qui vont être intéressants. Aussi, il va y avoir Wipeout. Attention, les fans, il va y avoir Wipeout, ça va être écœurant. Je n'ai que ça à dire. Moi, je suis un gros, gros fan de Wipeout. Ça va être le fun. Donc, moi, par exemple, ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce que les ventes de la PlayStation Vita vont pouvoir suivre vont pouvoir être plus fortes que les ventes au Japon, ce qui serait pas nécessairement une première, mais ça serait quelque chose de drôle à voir parce qu'habituellement, j'ai écrit un article là-dessus justement sur pourquoi la PlayStation Vita ne se débrouillait pas si bien que ça au Japon. C'est
ce qui est surprenant d'ailleurs parce que les produits Sony au Japon, on s'entend que d'habitude, en tout cas, ça...
Pas nécessairement, parce que si on se rappelle la PlayStation 3, puis même la PlayStation Portable au début, les ventes n'étaient pas écœurantes. C'était pas, mon Dieu, on va se rouler à terre, c'est... Écoute, c'est ridicule, là. C'est... Non, c'est vraiment... On a un... Nous autres, on a une habitude d'achat qui est totalement différente des Japonais, d'où le pourquoi la Nintendo 3DS ne se débrouillait pas aussi bien. Au début, il n'y avait pas de jeu. Non, nous autres, il y a des jeux qui nous parlent. Là, je veux dire, hey, Uncharted, c'est un gros classique en Amérique du Nord.
Ouais.
Et si on parle de Little Big Planet, ça en est un autre.
Ben oui.
Moi, j'ai pas peur pour la PlayStation Vita en Amérique du Nord. Par exemple, j'aimerais ça savoir s'il y aurait des tailles de jeux, quoi que ce soit. Je pense qu'il y a un Laurent qui m'a...
Ben oui, j'en ai une couple, justement. On parlait tantôt de en rentrer pas grand-chose sur la carte de 4 gigs. Mais attache ta tuque parce que c'est pas mal comme tu disais, dans le sens que des jeux comme Uncharted Golden Abyss, c'est 2.8 gigs.
Hé, imagine!
2.8 gigs, c'est un jeu pour une carte de 4 gigs.
Donc, fait que là, vous êtes peut-être... Tu peux peut-être réussir à rentrer Hotshot Golf à 1.1 gig à la fin, mais si tu as mis BlazBlue de 3.2 gigs, ça c'était fait,
ben
ça
rentre. Voyons donc.
Mais surtout que BlazBlue, à part les beaux décors, je vois pas pourquoi ça pèse 3.2 gigs. Je veux dire, moi j'ai joué beaucoup à BlazBlue, puis j'ai un de mes amis qui est très fan de BlazBlue. Bonjour Ben. Écoute, là, moi je comprends pas pourquoi ça pèse 3.2 gigs à part la musique. Si ça arrêtait comme dans le premier...
Mais oui, ça devrait pas être de la musique qui prenne tant d'espace que ça.
Non, c'est sûrement beaucoup de textures puis de choses qui n'ont pas été bien compressées ou bien, disons, raffinées ou qui ont été optimisées pour la vitesse d'exécution du jeu plutôt que la taille. C'est souvent un compromis qui est difficile à faire.
Ou simplement aussi pour nous faire acheter justement une PS Vita un peu plus grosse. Tu sais, là, on va être comme obligé.
Les cartes mémoire, ça va être ridicule. Là, je veux dire, écoute, que tu es obligé d'acheter parce que ton jeu ne te coûtera pas 39,99. Non, il va te coûter 59,99 parce que tu achètes une carte mémoire pour chaque. Donc, c'est quoi le but d'avoir exclu les cassettes? Ça fait pas de sens. Ouais,
à moins qu'il y en ait qui vendent les jeux inclus sur une cartouche déjà, peut-être qu'il y en a qui vont faire ça.
En ce moment, c'est pas ça. C'est tout vendu sur le PlayStation Network. Donc, c'est vraiment une grosse gimmick en arrière de ça. Donc, ça va être
quelque chose.
Non, c'est ça. Donc, ça va être quelque chose qui va être à surveiller d'ici le 22. Je crois que Jonathan avait l'intention de s'en procurer une.
Oui.
Donc, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est la qualité de l'écran, par exemple, du OLED, un écran de 5 pouces comme ça. Là, j'ai vraiment hâte de voir à quel point ça doit être beau et brillant.
Quand j'ai été au Montreal, juste pour finir, j'ai été au Montreal International Game Summit. Si vous vous posiez la question, c'est qui est le meilleur entre la 3DS et le PlayStation Vita, niveau graphique, niveau qualité de l'appareil, la Vita. C'est la Vita. Je suis un gros fan de Nintendo, mais la Vita, oh mon Dieu, c'était beau.
Mais là, le fait d'avoir des analog sticks aussi, ça va être le fun.
Ah, hey, la précision.
Je pense qu'il arrive avec une console qui va être capable d'en faire baver plus d'un. Et d'ailleurs, je pense qu'on va être une gang à vouloir l'avoir. En tout cas, moi, je me joins à Jonathan et j'en veux une aussi. Je vais prendre la tienne, Jonathan. Mais mais merci, Bruno. Puis j'ai bien hâte de voir ça. Puis d'ailleurs, je veux juste mentionner que maintenant, sur Geekbécois, quelque chose qu'on faisait pas, qu'on a rajouté, il va y avoir un article à chaque mois qui va vraiment nous donner tous les jeux, toutes les sorties de jeux de chaque mois. Donc, ça va nous donner la chance. C'est Bruno qui a fait celle du mois de février. Vous pouvez la consulter sur le site de Geekbécois. Et puis, à chaque mois, on va les ajouter. Donc, vous allez pouvoir faire un bon suivi. Alors, je vous demande tous maintenant, non, après le podcast, vous irez voir ça. C'est très bien fait. Et merci beaucoup, Bruno. Ça nous donne une très bonne idée de la PS Vita qui s'en vient.
Juste une petite mention pour notre article de liste de jeux. Des fois, ça se peut qu'on échappe des balles parce qu'il y en a tellement de jeux qui sortent.
Ben oui, c'est sûr.
Durant les grandes périodes, n'hésitez pas à aller dans la section des commentaires et dire « Hey, vous avez oublié tel jeu! » Ça nous fait plaisir de vous recevoir dans nos commentaires. Puis en même temps, ça aide tout le monde. Puis nous autres, grâce à ça, on va mettre à jour la liste et on va peut-être laisser votre nom en bas de page. Qui sait?
On va vous remercier, c'est certain. Bien, merci beaucoup. Alors, on est maintenant rendu au moment tant attendu que tout le monde nous demande avec impatience. Non, c'est pas vrai.
Les gens m'arrêtent dans la rue pour savoir.
Oui, je sais. Laurent, tu m'as dit ça. T'es même pas capable de rentrer au travail. En tout cas,
non, c'est
fou.
Trop de fans.
On est rendu des superstars, écoute. C'est ça.
C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on a pris une pause, d'ailleurs. C'est pour ça que ça a été un petit peu plus long, notre retour. On fallait s'en remettre. On a tous consulté et maintenant, ça va bien. On est prêts. Alors, on y va avec nos oranges et citrons. Et je crois que je vais commencer. Pourquoi pas? Je commence le bal, les premiers de 2012.
Vas-y, Lynn.
Bon, Steve, il fallait qu'il dise quelque chose.
Hello, alors, Steve!
Oui, il est jamais loin. Il est jamais très loin. C'est ça que j'ai réalisé. Alors, mon orange... C'est, en fait, c'est un ancien citron qui est devenu un orange. C'est beau, hein? Oui, il y a une évolution. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé que la Banque nationale du Canada n'avait pas d'application mobile et j'étais outrée de ça. Eh bien, c'est chose du passé. Maintenant, ils ont créé une application mobile super, aussi bonne que Desjardins. Et j'en suis très fière. Je l'utilise abondamment et beaucoup trop. Et je crois que je suis leur meilleur client de mes transferts bancaires sur, justement, mon application. Super bien fait. Chapeau, la Banque nationale. Enfin, vous avez compris. Très en retard, mais quand même, on va le prendre. Et mon citron. En fait, c'est une application aussi. Je suis là-dedans. Je ne sais pas si vous connaissez l'application « Find a Friend ». Je sais pas si vous
savez ça. C'est... Non, ça me dit rien.
Non.
C'est, faut que vous voyez ça. La première semaine que tu l'as, c'est vraiment, vraiment le fun. Ça n'a même pas de sens. Parce que ce que c'est que tu demandes, tu envoies une invitation à ton ami ou ta soeur ou ta mère ou whatever qui a un iPhone et tu lui demandes « Est-ce que tu veux que je puisse savoir t'es où tout le temps? »
Ah oui!
Et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Même que ma sœur est rendue folle de cette application-là. À la seconde que je me déplace, elle m'écrit pour me dire « Ah, tu t'en vas faire quoi? » Je te dis, c'est de la folie, là. Ça n'a pas de sens. Et je fais juste imaginer le nombre de cas de divorce que cette application-là a dû causer. en tout cas, c'est mieux qu'on ne sache pas. Mais en fait, je trouve ça juste complètement ridicule. Au début, c'est bien le fun, mais à un moment donné, tu réalises que c'est rendu de la folie parce que ça devient de l'espionnage, tout simplement. Là. Une fois que tu as accepté la demande, elle sait t'es où, la personne sait t'es où tout le temps. Et je trouve que c'est peut-être un petit peu trop là, dans la vie privée.
Moi, je ne serais pas capable. Il me semble que de plus avoir cette bulle privée-là de « je suis à un endroit puis il y a juste moi qui le sais hein. ».
Ben, puis déjà, d'avoir un cellulaire qui t'enlève déjà une côté très...
Ouais, ben moi, justement, je fais vraiment attention quand je poste des trucs avec mon mobile, que ce soit sur Twitter, Facebook, les autres, parce qu'il y a souvent la géolocalisation qui est activée par défaut, puis
ouais.
Je sais pas, je veux pas tout le temps que tout le monde sache où je suis au moment
où c'est un peu intense, hein? C'est un peu épeurant, même, là, à un moment donné, là, de savoir que tout le monde sait que t'es OK dans ton salon ou chez ta mère ou whatever.
C'est l'outil parfait du stalker, voyons.
Exactement. Alors, c'était mes oranges et mes citrons. Est-ce qu'on y va avec Jonathan?
On pourrait y aller avec Jonathan. On peut commencer par mon orange. Fait que mon orange, c'est Team Fortress 2 que j'apprends à réapprivoiser, réadorer avec une passion incroyable parce que moi, j'avais lâché un petit peu avant l'invasion des chapeaux, là, genre pre-order tel jeu et on donne 4 chapeaux.
Okay. Mais ils sont tellement beaux!
Ouais, mais c'est ça, mais c'est que on dirait que Steam mettait trop l'emphase sur les chapeaux. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme « OK, c'est beau. Moi, si je voulais échanger des chapeaux, j'aurais été à Capsule Sportive, quelque chose, m'en faire faire. Là. » Fait que bref, j'avais débarqué, puis récemment, je l'ai réinstallé, je jouais avec des copains, puis mon Dieu que c'est plaisant de mettre une balle dans du monde.
C'est pas parce que j'étais un petit peu poussé dans le derrière pour embarquer, hein?
Non, c'est plus une affaire de gang, ça.
Ouais.
Alors, bref, ça, c'était mon orange et mon citron. Mon citron, j'en ai deux, mais je vais prendre. Je vais commencer par le premier, parce que le premier est vraiment pas bon. C'est vraiment le système des microtransactions qu'on commence à prendre un petit peu trop au sérieux, là. Mm-hmm. Si je reprends mes exemples de mon sujet, Heroes of New Earth, puis League of Legends. League of Legends avant a deux systèmes dans le fond. Ils ont les Riot Points qu'il faut payer pour, puis ils ont les Influence Points que tu gagnes en gagnant des parties ou en faisant des parties, parce que tu en gagnes aussi quand tu perds des parties. Bref, c'est ça. Il y avait 3 ou 4 lignes de prix. En gros, c'était environ 10 games gagnés, 25 games gagnés, puis à peu près 50 games gagnés. Puis là, dernièrement, depuis qu'ils ont été rachetés par une magnifique compagnie chinoise, dont je ne me rappelle point le nom, ben c'est tout des héros à 50 games. C'est tout des... Tu sais, ça devient long quand tu veux du contenu à un moment donné. Là.
Quand tu veux du nouveau stock, puis évidemment, si tu en veux d'autres, c'est ce que tu as à faire.
Ben c'est ça. Puis Heroes of New Earth, ben ils ont fait un peu... un peu la même chose, mais c'est totalement différent en même temps. C'est qu'avant, c'était l'équivalent de 5$ pour un héros. Puis maintenant, ils rajoutent le héros plus un costume, plus un petit icône pour afficher dans le chat. Donc, parce qu'ils mettent l'icône, ils montent le prix de 100 points. Ce qui veut dire que en valeur monétaire réelle, c'est que tu n'as pas le choix de payer 10$ pour avoir ton héros.
Aïe, aïe.
Fait que ça, je trouve ça un peu plate. Mais bon, c'est sûr qu'au moins dans Heroes of New Earth, il n'y a rien qui t'empêche d'attendre le mois avant que ton héros tombe accessible à tout
pas
le monde.
Pas cher, ouais, c'est ça.
Mais League of Legends, c'est que c'est toujours des rotations. Fait que si tu ne l'achètes pas, ben, faut que tu tombes dans la bonne semaine pour l'avoir. Donc, c'est tout.
Et t'avais-tu un deuxième citron, t'avais dit?
Le deuxième citron, je vais me faire lancer des tables et tous les citrons de tout le monde en même temps, c'est Old Republic. Je l'ai pas aimé, je l'aime toujours pas, puis je comprends pas comment les gens sont tombés d'extase pour un jeu qui est à un seuil de qualité de 2004. Donc, c'est ça.
Et que tu vas recevoir des tables.
Ah, ça me dérange pas. J'ai mes arguments de prêt.
M'attends que tu repasses chez nous.
Faut assumer, puis il faudrait peut-être en parler un petit peu plus dans un autre podcast, que tu puisses justement nous le débattre. On pourrait le débattre, ça. Je pense que dans un extra, ça pourrait être assez intéressant d'avoir les opinions de tout le monde là-dessus.
Absolument.
Ben merci beaucoup, Jonathan. Puis, on y va donc avec Bruno, pourquoi pas?
Oui, on va commencer avec mon orange. Donc, mon orange, c'est quelque chose... Écoute, moi, je suis un grand fan de Lego. J'ai grandi avec des Lego, puis écoute, moi, les Lego, c'est ça.
C'est ta vie.
Moi, les Lego, c'est un bac que tu trouves jamais celui que tu cherches, puis que tu piles dessus avec ton pied qui avait pas de souliers.
Ça, c'est parce que tu as des enfants. Donc, bref...
Non, c'est quand j'étais jeune.
Ah, ben oui. Non, effectivement, ça faisait des call trap cheap quand t'étais un ninja sur le budget. Donc, bref... J'ai su aujourd'hui, à la date de l'enregistrement du podcast, que Lego va lancer la collection de Lord of the Rings.
Ah oh, ouais!
On va avoir vraiment des Lego. Écoute, là, moi, là, c'est...
C'est le meilleur des deux mondes, ça?
C'est le meilleur des deux mondes. Écoute, là, c'est Lego's Knights avec des modèles. Puis il y a vraiment des modèles qui sont basés sur... là, je passerai pas comme 400 ans là-dessus, mais il va y avoir Legolas, Boromir, Aragorn. Il va y avoir Gandalf, le gris. Peut-être Gandalf Leblanc, Pipin, Merry, Frodo, Samwise, Gamgee, Gimli. Il va y avoir aussi, naturellement, Gollum, les Nazgûl, les choses comme ça. Écoute, les possibilités sont infinies. Donc ça, c'est mon orange. Puis écoute, moi, je suis un grand fan, fait que je trippe à l'os.
Ouais, je pense que tu vas tout avoir, ça.
Surtout de savoir que mes futurs enfants vont peut-être jouer à Lord of the Rings avec des Lego. Fait que ça va être malade. Donc, mon citron, écoute, je vais sortir quelque chose du placard. Je suis pas fier de Valve. Autant qu'on parlait de TF2, qui est vraiment un très bon jeu avec ses chapeaux et ses multiples éditions. Valve, calvaire, où est-ce qu'il est mon Half-Life épisode 3? Où est-ce qu'il est?
Ils doivent le chercher, eux autres, avec.
Écoute, là, ils ont dit qu'il y a quelque chose qui va venir avec le numéro 3 au Electronic Entertainment Expo. Il y a juste un problème. Team Fortress 2. Dead Rising. Ah ouais, Dead Rising? Mon Dieu, je suis tout perdu. Left 4 Dead 2.
Mm-hmm.
Half-Life épisode 2. Mm. Écoute, t'as tellement de 2 partout. Est-ce que tu vas encore nous décevoir? Gabe, je parle à toi, Gabe Newell.
Qu'on sait qu'il écoute, là.
Écoute, là. Gabe, donne-nous Half-Life épisode 3. On va arrêter de t'écœurer.
Sinon, on va en parler à chaque podcast maintenant.
À chaque podcast. Je vais m'en faire une mission.
Merci.
Ah, ben c'est ça. Ouais, concept.
Ça t'a fait du bien?
Oh, je me sens mieux.
Bon, tu vas mieux dormir. On est là pour ça. Laurent, orange citron.
Bon, alors, moi, mon orange cette semaine, c'est les politiques de retour des magasins, en particulier dans le monde électronique et des gadgets. Parce que mon histoire, c'est la suivante. J'ai acheté un petit portable à bas prix comme ordinateur portable de plus. Puis, ça s'est avéré qu'après une semaine, malgré le fait qu'on avait bien magasiné pour trouver un bon modèle qui semblait être de bonne qualité, les reviews, tout ça, après une semaine, je voulais le pitcher par la fenêtre. C'est une merde. Il s'est mou, c'est du plastique. L'écran s'est mis à faire des conneries. Bref, une merde. Je l'ai ramené au magasin. ça marche pas, merci, bonsoir, voilà ton argent, puis fais ce que tu veux avec. Ça, j'ai trouvé ça génial. Je sais que Costco fait ça, Best Buy, c'était sur les Best Buy aujourd'hui, il y en a plusieurs. J'aime ces politiques-là, même si en quelque part, tous les prix sont peut-être légèrement plus hauts parce que c'est comme une assurance, puis le magasin paye, tout ça, mais enfin, de pouvoir retourner un article que finalement, c'était pas ce que tu voulais parce que ça marche pas, ben je suis content.
Ben, au moins ça, c'est ça, parce qu'au moins, tu as une politique de retour qui a de l'allure, là.
Ouais, ouais. Et puis, mon citron cette semaine, ce sont les systèmes de paiement de cartes de crédit dans les magasins. Oui, après des dizaines et des dizaines d'années d'évolution, c'est encore de la merde. Ça me prend encore une minute de faire une transaction quand je vais au Canadian Tire parce que la petite patente, elle prend du temps à me demander mon NIP, puis ça prend du temps à finir, puis ça prend du temps. Ou l'autre magasin, la patente, elle puce, ça marche pas, fait qu'il faut prendre la patente magnétique, puis là, il y a un tape dessus, puis la fille se trompe. Faut-tu te signes, est-ce que je fais un dessin, je te mets dans la face, je sais pas. J'en reviens pas qu'on soit encore avec ça. Les petits terminals qui marchent mal, qui vont pas bien, qui sont slow, qui connectent par téléphone, puis l'autre, il a décroché le fax en même temps. Qu'est-ce que ça sort?
D'ailleurs, ça m'énerve tant,
ben. Ça devrait pas tout être sans fil, puis je sais pas.
C'est ça, puis moi, j'embarque aussi sur même les cartes Interact. Ça m'énerve donc bien qu'ils mettent une puce, puis il y a encore des magasins qui n'ont pas la puce. Là, je me dis, je suis en train de me faire avoir, je suis en train de me faire...
Exactement, puis je connais quelqu'un qui s'est fait vider son compte de banque il n'y a pas plus tard que là, 2 semaines à cause d'un skimmer qui avait été installé dans une pompe à essence quelque part, on ne le sait pas. Elle l'aurait jamais su, mais elle est en train de se battre avec son compte vide, puis c'est bien le fun.
C'est tellement frustrant, ça, je te dis.
C'est ça, pour ça, je me permettrais de donner un petit conseil aux consommateurs. Utilisez jamais votre carte Interact si vous êtes capable d'utiliser une carte de crédit à la place que vous allez payer à la fin du mois. La raison, c'est bien simple, ça vous coûte zéro, puis la carte de crédit, c'est eux autres qui prennent le risque, la fraude, pas vous.
C'est ça. Très bon conseil, Laurent. J'aime terminer là-dessus.
Note
positive, pourquoi pas. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là avec nous. Et bien, j'espère en fait que vous avez apprécié l'émission, même si elle était raccourcie un petit peu. J'avais une bonne partie de l'équipe avec moi que j'ai assez... j'ai bien aimé l'expérience. Nous avions Bruno.
Hey!
Laurent.
Eh oui!
Jonathan.
Toujours présent.
Et moi-même. Alors, restez à l'écoute pour les prochains podcasts à venir parce que oui, nous sommes de retour encore plus fort que jamais.
2012.
Toujours plus fort. 2012, Geekdécois, rock.
Oui.
On rush.
Voilà, c'est tout.
Pour tout commentaire, question ou suggestion concernant l'émission ou pour communiquer avec l'équipe de Geekbécois, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook ou sur Twitter à @Geekbécois ou sur le site internet au www.geekbécois.com.
Oh, la finale! Oh, Geek va pas au rock!
Oui!
Oui, mais il faut que tu répondes toujours. Tu dis présent. Non, c'est pas
vrai. Toujours ou présent?
Ah, toujours présent.
Présent, madame.
Toujours présent.
Tu sais, les seules fois que je regarde Musique Plus, c'était avec Laurent Lassalle, puis tu sais, j'ai vu ça, puis j'ai fait...
Puis avec moi, Bruno?
Non, ça a donné que j'ai pas regardé quand t'étais là. Je m'excuse.
Je suis bien déçu. Merci beaucoup d'être venu, Bruno. À la prochaine.
Ah!
Je vais tuer Steve.
Faut que je relâche des gaz. Blablabla, blablabla. Oh shit.
Pour faire le petit intro que je vais sûrement réussir du premier coup, parce que vous croyez tous en moi. Je mange de la soupe wonton.
Ça a l'air d'un insecte avec un butt plug.
Laurent, quand t'es prêt, tu me dis.
Ouais, ça sent c'est presque bien de. Oui.
Fait que ça a dû enregistrer le.
Fait que là, bon, c'est ta tombe. Laurent!
On gosse, on jase, on a du fun ensemble, ça dure le temps que ça dure.
Hey, get the fuck out!
Ouais, c'est ça.
Hey man, ma concentration là. Ok, blablabla. J'ai vraiment des jeux que je viens de me planter solide, je m'en excuse.
Excuse-moi, j'espérais pas te couper.
Mais non, le péteux.
Excuse-moi.
Non, mais tout le monde.
Fuck up, là, c'était comme. Sortons les vieilles affaires.
C'est ça, c'est correct.
Ok, on reprend la dernière phrase. Guys, donc, on va commencer avec mon orange.
Allons-y. Oh, je sais pas pourquoi j'ai dit ça.
Blablabla, blablabla. Oh, shit.
Blablabla.
Avec la petite bave.
On va voir. Ça dépend à quel point Steve va être sous.
Oh.
crime, je vous jure, les gars, c'était vraiment en tête, là. J'étais même plus à l'aise tellement c'était serré. Mais ça... non, ça... OK, là, non, non, mais là, elle nous entend plus. C'était-tu de la merde?
C'est ça qui est ça dans le monde du sport.
On a une bonne émission.